tous.
Salut.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille et radiogalère.org un peu partout dans le monde. Il est 16h30, c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. Comme tous les premiers mercredis de chaque mois, on va parler d'histoire en essayant d'entendre celles et ceux qui l'ont vécu, celles et ceux qui n'ont jamais la parole, en déconstruisant le récit officiel qui sert les puissants. Alors on n'est pas des spécialistes, mais on pense que l'histoire c'est politique, c'est un outil qu'on veut s'approprier et partager.
Et donc du coup pour le mois de mars là, on avait envie de faire une émission sur la propriété parce que on trouve que ces derniers temps il y a un peu comme une injonction au fait de devenir propriétaire. Bon, ça a toujours existé depuis les années je sais plus quand, mais en tout cas c'est assez
longtemps.
Vieux. C'est assez vieux cette injonction là où on demande aux travailleurs d'acheter leur maison. Et on trouve que, enfin on a l'impression, en tout cas c'est peut-être une fausse sensation, mais en tout cas on a l'impression que depuis le Covid en gros, cette injonction elle est encore plus présente, et notamment quand on veut partir vivre à la campagne, où ça devient de plus en plus difficile de trouver des logements en location, parce que ce qui est proposé, c'est énormément des logements à l'achat, avec du coup les histoires de confinement qui ont fait que les classes moyennes supérieures se sont précipitées sur les campagnes, et du coup ont les moyens de se payer des grandes baraques pour pouvoir aller faire du télétravail, et ce qui empêche des classes sociales avec un peu moins d'argent de pouvoir louer dans ces campagnes-là qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Et du coup, on avait un peu envie de réfléchir à la propriété la propriété individuelle, quoi. Qu'est-ce qui fait comment on en est arrivé à faire que il y ait le commun qui disparaisse pour pouvoir un peu mettre en avant la propriété individuelle, que tout ça c'est pas quelque chose qui est naturel, mais que c'est plutôt construit historiquement, et du coup c'est pour ça qu'on va partir un peu dans tous les sens, mais en tout cas on va essayer de revenir un peu sur cette histoire là
peut-être pas dans tous les sens, mais en tout cas dans la même logique d'une histoire économique et sociale. Et peu importe où ça se trouve dans le monde, peu importe les cultures, c'est plutôt sur cette histoire d'un discours unique sur la propriété privée qui aujourd'hui apparaît à beaucoup de monde comme une évidence, mais qu'en fait, en décortiquant un peu, c'en est absolument pas une, qu'on soit ici ou là.
Alors évidemment, c'est pas non plus pour défendre la question de la location individuelle, c'est pas parce qu'on... L'alternative à la propriété privée, on ne va pas défendre le côté locataire ou locatif des choses non plus, mais plutôt essayer de, à la fois pour comprendre ce que c'est cette histoire-là, de savoir qu'est-ce qu'il en est du commun et échapper aux. Et comment on fait pour échapper aux injonctions individuelles, quoi. Là où à un moment donné, où ça nous touche individuellement et on nous demande de nous en sortir. Pour nous-mêmes et nos proches ou notre famille, et détruire totalement ce que c'est le commun.
Voilà, quitte à nous faire croire que l'individualité est plus facile et évidente, comme je leur dis, par rapport au collectif.
Alors, peut-être qu'on peut commencer par introduire notre émission.
Ouais, alors voilà. Oh là là, ça sature à fond, non? Alors aujourd'hui, on parle de la propriété privée. On est parti du constat que la propriété, c'est une valeur centrale dans les sociétés capitalistes qu'on connaît. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, elle en fait un droit inviolable et sacré, c'est une notion qui est mise au même niveau que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors l'accès à la propriété, comme on disait, l'achat d'un appart ou d'une maison par exemple, c'est un des objectifs de vie pour beaucoup d'entre nous, et l'idée la plus répandue veut qu'un bien, une ressource seront mieux gérés par une personne privée que par un collectif d'utilisateurs. Et pourtant, on va le voir, ça n'a pas toujours été le cas par le passé, et c'est pas une évidence non plus dans toutes les cultures. Alors on va commencer par une petite histoire du mouvement des enclosures. Qui est au XVIe siècle, la première révolution juridique, sociale et économique, autour du droit de propriété et la généralisation de la propriété privée. C'est le point de départ du capitalisme, de la hausse de la productivité agricole et de la révolution industrielle. Mais ce mouvement des enclosures, il ne s'est pas fait sans résistance non plus. Ensuite, on abordera les luttes des travailleurs et travailleuses pour se réapproprier leur outil de travail, parce que le capitalisme, c'est aussi l'histoire de la dépossession des travailleurs, et avec le patron qui détient les moyens de production. Et on ne pouvait pas évoquer la propriété privée sans parler de la colonisation et de l'apport des ressources naturelles et de la terre pour faire du profit. Je vous propose de commencer par se mettre un petit morceau.
Une petite cumbia,
c'est Los Titanes. Ok, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM, c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. Alors, si on veut aborder le thème de la propriété d'un point de vue historique, le mouvement des enclosures, c'est vraiment une étape essentielle. Alors, pour commencer, c'est quoi une enclosure ? Simplement, c'est la délimitation physique d'une parcelle de terrain, c'est souvent un champ ou un pâturage, par des barrières, des haies, des fossés, etc. Le mouvement des enclosures, à proprement parler, il est situé à la fin du XVIe siècle en Angleterre, mais on peut en voir les prémices bien avant, un ou deux siècles en amont. Alors à l'époque, la majorité de la population, c'est des paysans libres qui pratiquent l'open field, c'est-à-dire l'open field, c'est un principe de culture collective de terres non délimitées entre elles, et notamment avec une mise en commun du matériel et du bétail pour tracter les charrues, par exemple. C'est un système qui permettait à des paysans modestes de pouvoir travailler sans être salariés. donc de travailler pour eux. Alors les salariés agricoles, il y en avait aussi, beaucoup moins, mais il y en a, c'est principalement des journaliers qui louaient leurs services, mais qui pouvaient aussi cultiver par contre des parcelles pour eux-mêmes. Donc tout ce petit monde, il peut profiter de terres qu'on a puisées de l'eau, parce qu'en fait ces terrains-là appartenaient à personne ou à tout le monde selon le point de vue. Et donc ça, c'était vraiment essentiel pour beaucoup, et surtout pour les paysans les plus pauvres. C'est ça qui vraiment leur permettait de se débrouiller pour survivre. Alors ça se passe sur des terres qui appartiennent en général à un seigneur, mais l'idée de propriété, elle est plutôt éloignée de celle qu'on en a aujourd'hui. Elle est bien moins formelle à l'époque, il n'y a pas vraiment de cadastre pour officialiser tout ça. Et la grande différence avec l'époque des serfs, c'est que les paysans louent en quelque sorte les terres qu'ils cultivent au seigneur, et ils ne sont plus les espèces d'esclaves qu'ils étaient avant. Et ce qui est important, intéressant surtout, c'est que avec le travail collectif de l'open field et des communaux, les décisions en ce qui concerne les cultures, elles sont prises de manière assez collective et a priori assez démocratique, enfin démocratiquement et en tout cas indépendamment du seigneur, donc au niveau du village, voilà. Bon, tout ça c'est un peu schématisé, mais c'est pour dire que sans que ça ressemble non plus à une espèce de paradis collectiviste, la condition des paysans de cette époque, elle était bien meilleure qu'à l'époque où ils étaient serfs, bien sûr. Donc écrasés de redevances, d'obligations de service au seigneur des terres ou au clergé. Et elle est globalement aussi meilleure à cette époque qu'après ce mouvement des enclosures. Il y avait déjà une lutte des classes qui était en place, et la paysannerie, ça représentait en quelque sorte une espèce de contre-pouvoir, avec des révoltes assez régulières et une relative autonomie rendue possible notamment par l'exploitation de ces communaux et le fait qu'ils n'étaient pas salariés mais qu'ils travaillaient pour eux-mêmes, quoi. Le mouvement des enclosures, c'est quand la possession et l'utilisation collective des terres, elle est remplacée par une possession individuelle. Donc là, on parle en général de seigneurs ou de riches fermiers, exploitants. Les moyens mis en place pour récupérer les terres, le foncier, ils vont du rachat des parcelles jusqu'au harcèlement et aux violences sur les paysans pour les en expulser. Ça, c'était particulièrement vrai, par exemple, en Écosse, où... là où on appelait ça enclosure en Angleterre, en Écosse, on appelait ça clearance, donc nettoyage, et où vraiment c'était des massacres de paysans pour récupérer les terres. Et comme il y avait à l'époque un gros marché de la laine, à ce moment-là, la laine anglaise était très, très
appréciée,
ouais, très appréciée, très, avait une grosse valeur. Toutes les terres qui ont été confisquées en quelque sorte, ou dont les paysans ont été expropriés, elles sont transformées en pâturage pour les moutons. Et même à tel point qu'il y a des centaines de villages qui sont dépeuplés et rasés pour en faire des prés. Et il y a un auteur qui s'appelle Thomas More qui parle de moutons qui consomment, détruisent et dévorent des champs entiers, des maisons et des villes, qui peuvent manger et avaler jusqu'aux hommes eux-mêmes. Bon, là, il a peut-être un peu exagéré, là, Thomas More. Ouais, il n'y a peut-être pas eu des moutons qui ont graillé des gens, là, mais c'était un peu pour donner une idée du truc. Et pareil, la division et l'exploitation individuelle des terres, c'était censé augmenter les rendements agricoles. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, comment, mais apparemment, ça fait toujours débat aujourd'hui entre les différentes écoles de pensée. Et alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conséquences sociales de cette transformation de la façon de produire, elles sont vraiment, enfin, de produire et même d'exploiter, de posséder la terre, elles sont catastrophiques pour la population, puisque les terres communales qui permettaient à une certaine autonomie et aux plus pauvres de s'assurer une subsistance, elles sont privatisées. Donc ça c'est terminé pour les petits paysans. De deux, les paysans qui ne possédaient pas leurs terres, qui les louaient donc aux seigneurs ou aux propriétaires, ou bien ceux dont les terres ont été confisquées, enfin qui ont été expropriées, il se retrouve donc salarié et donc très dépendant de l'employeur. Et d'ailleurs, le salariat, c'était vraiment vu à l'époque comme un moyen d'asservissement. C'était vraiment très, très mal vu. Enfin, et c'était le salarié, c'était vraiment l'esclave, quoi. Et en plus, avec la transformation des champs en pâturage, bah, forcément, du boulot, il y en a moins. Et donc, c'est vraiment une période d'appauvrissement général de la population. Il y a un véritable exode rural. Et le vagabondage, ça devient un des gros problèmes sociaux de cette époque. Alors ensuite, là où on avait des cultures de subsistance, donc du coup des cultures qui étaient destinées à être consommées sur place en général.
Et par ceux qui cultivaient les terres.
Qui l'ont produite, exactement. Et ben à ce moment-là, ça devient des productions qui sont exportées. C'est des nouveaux marchés qui se mettent en place, et donc les productions sont exportées et vendues, ce qui a engendré des famines pour les travailleurs, même avec les nouvelles techniques agricoles qui permettaient même d'augmenter les rendements. Et pour un exemple qui dépasse le cadre de l'Angleterre, mais Silvia Federici dans son livre Caliban et la sorcière, qui parle aux Pays-Bas de la population qui littéralement mourait de faim dans la rue, à côté d'un entrepôt qui a fini par s'effondrer tellement il était rempli de grains qui étaient destinés à être vendus. Voilà, ça donne un peu une idée du...
Je crois que ça a pas trop changé, cette histoire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tu vois les centres commerciaux, t'es là, ok.
Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est... malheureusement, c'est un peu la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et donc en fait voilà, c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a une monétisation des rapports qui apparaît, qui est toute nouvelle et qui chamboule toute la structure sociale de l'époque et notamment la structure sociale paysanne. Les inégalités, elles se creusent et bien sûr les plus touchées, les plus précaires, comme souvent c'est les femmes, parce que les communaux c'était un lieu important déjà de leur vie sociale et de leur autonomie. Et puis, quand les paysans deviennent des salariés, des prolétaires, et ben les femmes, elles récupèrent les boulots les plus dévalorisés et les plus mal payés. Et alors, l'historienne Silvia Federici, dont je vous parlais, elle fait le lien entre la dégradation du statut des femmes et l'espèce de misogynie qui s'est particulièrement développée à ce moment. Et elle met là aussi les origines des... Enfin, elle place à cet endroit les origines des chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe et même, j'imagine, par la suite en Amérique du Sud avec l'Inquisition espagnole. Et en disant, en gros, ce qu'elle explique, Silvia Federici, c'est que le capitalisme qui était en train d'apparaître à ce moment-là et l'État qui se centralisait, ça impliquait une certaine discipline et un contrôle sur les corps. Et d'ailleurs au même niveau que contrôle sur les terres et sur la nature. Bon voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça mériterait une émission en soi.
Non, mais vas-y, moi ça m'intéresse.
Et ben je te recommande Caliban à la sorcière de Silvia Federici.
Ouais,
voilà.
Et bim.
Bon alors du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les paysans, ils se font piquer leurs terres, les terres qu'ils travaillaient depuis des centaines d'années. Ils deviennent dépendants d'un salaire. Ils doivent acheter la bouffe que jusque-là ils produisaient pour eux et leurs potes, enfin
leur communauté, quoi.
Oui, leur communauté, voilà. Merci.
Qu'est-ce qui se passe avec leur sauce?
Alors voilà, avec leur srab. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, les prix augmentent, les prix de la nourriture augmentent à cause de la spéculation sur la bouffe. Ça, il y a un appauvrissement général de la population, comme j'expliquais. Donc, le peuple a la dalle. Et comme chacun et chacune le sait à l'époque, la sédition est la solution. Donc, il y a des révoltes.
Ah, les références.
Ah, bah ouais.
Toi, t'écoutes du rap.
Ça me marche. Donc, du coup, des révoltes. Le soulèvement le plus connu, c'est celui qui a été mené en 1549 par Robert Kett à Norfolk. On nous raconte que quand ils ont été vraiment au top de leur forme, ça représentait une armée de 16 000 personnes contre 12 000 pour l'armée gouvernementale en face. Ils avaient une artillerie, ils avaient tout ce qui allait bien pour une armée de l'époque. Ils ont réussi à prendre la ville de Norwich, qui était la deuxième ville du pays à l'époque. et leur liste de revendications. Je crois qu'il y avait 29 revendications, quelque chose comme ça. Et elle commençait par « Dorénavant, nul homme ne doit plus clôturer ». Donc du coup, ils font sauter un max de clôtures, autant de clôtures qu'ils peuvent, et avant de se faire, battre par une autre armée, donc un énorme massacre, etc. Des attaques contre les enclosures, il y en a eu d'autres, peut-être des moins spectaculaires, mais où les femmes se sont illustrées, parce que ça, ça découle directement de la grande précarité dans laquelle elles ont été précipitées avec ces changements sociaux. Ça pouvait se passer la nuit, à déterrer des barrières, à combler des fossés, ou même on nous parle d'une quarantaine de femmes qui ont attaqué les mineurs qui travaillaient sur les anciens communaux de leur village pour les revendiquer. Donc ça, effectivement, comme Silvia Federici explique bien, ça, c'est assez facile d'imaginer aussi une espèce de nouvelle vision de la femme très très dégradée et donc dont pourrait partir qui pourrait être à l'origine des chasses aux sorcières qui arriveront plus tard. Alors, malheureusement, tout ça, ça n'a pas suffi à arrêter ni l'emprise que prenaient les grands propriétaires sur les sols, jusqu'à ce que la moindre parcelle de terre elle soit privatisée, ni les conséquences désastreuses sur la vie des travailleurs, des travailleuses et des pauvres. Et alors, si l'époque des enclosures qu'on compte en général, du 16e au 19e siècle, la révolution industrielle, elle est souvent vue comme le point de départ de la transition de l'âge féodal vers l'ère capitaliste. En fait, c'est pas autre chose au final qu'à appliquer la Banque mondiale dans les pays pauvres avec ses programmes d'ajustement structurel. C'est la privatisation de terres collectives et la production pour l'exportation qui prive les peuples de leur autonomie. Donc, exactement.
Et de leurs ressources,
comme ça s'est passé à l'époque en Angleterre.
Super. Et comme quoi, le Moyen-Âge, c'est pas si pourri qu'on nous le raconte.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment l'image du cultivateur qui est vraiment oppressé, alors ce qui était le cas à l'époque des serfs, mais dans cette époque qui était juste en transition entre le servage et le mouvement des enclosures, on a eu un moment où vraiment les paysans étaient formés une classe sociale qui pouvait porter des revendications, qui pouvait se rebeller, qui pouvait avoir une certaine autonomie, quoi.
C'est souvent ça, parce que l'histoire est racontée par les dominants, pas par les dominés.
Et oui.
Et qu'on a toujours tendance à croire qu'on passe d'un système à un autre instantanément, alors qu'en fait, il faut souvent beaucoup de décennies et de transitions pour que les choses se transforment dans un sens ou dans l'autre, quoi.
Ouais.
Et au-delà de ça, on nous parle de progrès aussi. Quand, par exemple, on passe à l'ère capitaliste, comme l'a noté Federici avec la conquête des Amériques, lorsqu'on parle de progrès, là, on parle de progrès, que ça va faire avancer les nouvelles technologies, que c'est de l'ascension sociale, que, alors que le système, mais pour encore plus dire que le système au Moyen-Âge était... désuet, quoi, en gros, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, et en fait, comme j'expliquais avec les effets de la politique de la Banque mondiale, c'est que toutes ces choses-là, ces espèces de formes collectives de travail et de possession de la terre qui ont pu exister jusque-là, en fait, c'est un vrai enjeu pour, en gros, pour les capitalistes, que ça disparaisse, quoi. Et ben en parlant de progrès, on s'écouterait pas la complainte du progrès.
Ah bah vas-y, ça
fait longtemps.
Bon. Oh.
Allez.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur fait les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Alors du coup, on va passer petit... Oui, c'est moi. C'est bon. Petit paragraphe d'après, enfin le... Je suis un peu fort. La deuxième approche, que vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, comme on parle un peu de la propriété privée, de son histoire ou de ses histoires, ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, c'est qu'on a... plutôt tendance par habitude à avoir assimilé ce concept au foncier, ce qui appartient donc à la terre, propriétaire de sa maison, etc. etc. Et pourtant, ce concept, il déborde bien au-delà et il peut s'appliquer à d'autres sphères de notre quotidien, notamment au milieu du travail, de la production des biens.
Tout à fait.
Alors ça, ce que je disais tout à l'heure, ça apparaît vraiment trop souvent comme une évidence. Donc une entreprise, une société, une usine, un atelier fonctionnent selon le schéma classique, un patron d'un côté et des travailleurs, des salariés, des ouvriers de l'autre. Donc d'un côté, celui ou ceux qui ont la propriété du capital, donc l'argent, la propriété donc, de ce qu'on appelle des moyens de production, de l'outil quoi, les moyens de production. Et puis ceux qui ne sont, en quelque sorte, propriétaires, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, qui sont... les autres, ceux qui travaillent, ceux qui n'ont que leur force de travail avant les travailleurs. Tu n'as pas lu le Capital.
J'ai oublié, je tire la porte.
Et voilà, donc on peut nommer la force de production les employés, les ouvriers, les salariés, etc. etc. Et pourtant, il existe bien d'autres manières de fonctionner et de s'organiser. C'est pourquoi moi j'ai voulu plutôt aborder le thème donc de ce qu'on appelle aujourd'hui donc les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production. Alors pour la petite définition rapide, au cas il y aurait des gens qui doutent sur ce qu'est une SCOP, c'est ces structures qu'on définit comme étant à capital. Ça veut dire que il n'y a pas un patron, c'est tous les gens qui travaillent dans une structure en sont par égal ou à part de leur apport même financier. Les propriétaires, on ne partage pas un capital à la fin, il n'y a pas d'accumulation, il y a des ressources qui en sortent, ces ressources elles sont réinjectées dans la structure, voire même à la fin de l'année, partage des bénéfices. Et bien entendu, au niveau des pouvoirs de décision, une personne, une voix, c'est ça les SCOP. Aujourd'hui, comme je le disais, qui sont reconnus et même légiférés par l'État, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du tout, et voire même reconnu aujourd'hui par la communauté européenne, ce qui est, nous paraît peut-être évident, mais en fait, non, c'est quelque chose qui est très très récent, ce qui permet donc aux pays qui n'avaient pas la légalité de monter ces structures, c'était pas possible, même en Europe. Aujourd'hui, vu que l'Europe le reconnaît, ça l'est. Mmh. Alors ça peut être aussi mauvais signe, à partir du moment où on se dit, si l'État ou les institutions politiques commencent à mettre leur grain de sel et leur contrôle, peut-être les débuts de la fin de quelque chose, en tout cas d'un contrôle. Alors, à ma petite bonne habitude, je vais faire un petit bref historique, parce que
ça ne va
pas être trop chiant.
On en a besoin,
Et on va se faire un petit bond en arrière, mais très rapide. La Révolution française, 1789, tout le monde le sait, j'espère. Alors, le 1er novembre 1780...
Non, s'il vous plaît, pas ça.
Mais non, je ne fais pas ça, moi, tu sais. fait crier, c'est pour ça. Alors très schématiquement, donc avant cette date, bah tout on en a parlé, hein, tu viens d'en parler, hein, tout assez schématiquement, tout appartient plutôt au seigneur, au roi, les terres, les récoltes, les ressources animales, etc., etc. À partir de cette date, bah, le pouvoir passe aux mains de la bourgeoisie, donc en tout cas une nouvelle forme d'organisation de l'État et de l'économie qui se construit. Et bien entendu, bah, y a de fortes divergences qui existent. Alors il y a les artisans et les ouvriers, justement, donc les ouvriers, hein, cette classe qui apparaît avec cette nouvelle forme de production, eh bien, qui cherche à défendre leur droit au travail et à leur autonomie. Alors que le nouveau pouvoir en place, lui, justement, refuse tout intermédiaire entre l'État et l'individu.
Sans blague.
C'est bien de le rappeler parfois. Et justement, bah, on en arrive à 1791, t'as vu, ça va vite. Hein. En deux phrases, non, t'inquiète pas. La loi Chapelier qui interdit justement toute forme d'association de travailleurs. Il y avait eu des tentatives et c'est à ce moment-là que tout est interdit. Toute forme d'association de travailleurs ou corporatistes, hein, qui rentre du coup à ce moment-là dans la clandestinité. Alors s'ensuit conflit, lutte, répression, harcèlement policier, voire même emprisonnement. Il faudra attendre 40 ans plus tard, hein, 1831, pour que naisse officiellement la première association de travailleurs qui a été établie par des menuisiers. Souvent ensuite, d'autres corps de métier, hein, les bijoutiers, 3 ans plus tard, ainsi de suite. Alors en fait, ça naît officiellement, mais c'est quelque chose qui est déclaré. C'est pas quelque chose qui naît officiellement au sens où l'État les reconnaît. Et on va voir qu'avec le temps, en fait, selon les périodes historiques, l'État en a joué. De ces associations de producteurs ou pas, on va y venir. Alors ce mouvement, juste une petite brève historique également, hein, il est porté par un courant de pensée qui s'appelle le socialisme utopique, alors, qui s'opposera au socialisme scientifique, je ne vais pas revenir dessus, hein, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ça serait un peu compliqué quoi. Mais bon, l'un des théoriciens les plus connus, c'est Saint-Simon, qui pense qu'il lui faut associer le capital et le travail, et que ce n'est pas la propriété qui est au fondement de la société, mais le travail. Alors, juste pour ouvrir une autre parenthèse, j'aime bien ouvrir les parenthèses, c'est la naissance à ce moment-là de ce qu'on appelle l'économie sociale encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on appellera ça l'économie sociale et solidaire, etc. Je rappelle qu'on est à ce moment-là en plein, au 19e siècle, en plein processus d'industrialisation et ce que l'on pouvait appeler, ce que l'on pourrait appeler donc, de cette période de phase de proto-communisme. Les premières en fait, tentatives de mettre en place du commun au niveau de l'organisation et de l'économie, quoi. C'est la première fois qu'on commence à entendre les premiers mots autogestion, qu'on voit naître les premiers phalanstères. Phalanstères, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est.
Non, mais tu peux peut-être expliquer.
Vite fait, c'est ces lieux où on mettait en place ces modes de vie communautaires au niveau de la production du travail, des soins, etc., etc. Excusez-moi. Hop.
Arrêtez d'appeler,
c'est pas le moment
en
d'appeler.
En fait, il est en régie et donc il peut pas répondre. Voilà. Mais si vous voulez, tout à l'heure, vous pouvez appeler pendant la diffusion du petit documentaire.
Voilà, c'est ça.
Merci.
Donc pour revenir à nos moutons.
Merci. Les phalanstères, moi j'ai pas suivi, excuse-moi.
C'est les endroits où sont mis en place en fait les premières tentatives de vie en communauté, de partage des tâches, du travail, du soin. Voilà, c'est les systèmes égalitaires, les communautés égalitaires, où apparaît donc le premier, l'autonomie, l'autogestion, etc.
D'accord.
On fera peut-être une émission là-dessus.
Oui.
Voilà.
Phalanstère.
Mais par contre, bon, pour continuer, toutes ces associations donc, de travailleurs dont je parlais quelques instants, donc, elles seront réprimées tout au long de ce siècle, donc du 19e, hein, en fonction, ce que je disais tout à l'heure, donc, des épisodes politiques. Un coup encouragé par le gouvernement républicain, par exemple suite à l'insurrection de 1848, puis sévèrement réprimé quelques mois plus tard. C'est-à-dire qu'en quelques mois, soit ils les encouragent parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de produire. L'État ou le pouvoir en place a du mal à gérer et un peu, voilà, pédale un peu dans la semoule. Et donc il faut bien produire, donc il laisse ces tentatives se faire parce que ça produit, ça permet aussi la survie, ce qui n'est pas plus mal pour une reproduction du capital notamment. Hein. Et pareil, par exemple, 1871, tout d'un coup, il y a une renaissance avec l'idéal social que ça représente. Toutes les organisations d'ouvriers ou de gens qui luttent contre le pouvoir et qui sont bien entendu, quelques mois plus tard, à la prise du pouvoir par tiers, fusillés, voire déportés. Quoi. Alors, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Hein. Ce qui fait qu'on aurait pu croire que, dès lors, à ce moment-là, qu'avec l'essor du syndicalisme à la fin du 19e, cette organisation ou cette pratique serait encouragée, ce qui n'est donc pas du tout le cas. Surtout pas encouragé par le pouvoir syndical. En 1879, il y a un congrès ouvrier, un des premiers congrès ouvriers, qui lui se trouve défavorable aux coopératives. On rappellera que quand le Parti communiste prend le pouvoir en 1904, à la révolution d'octobre en Russie, il refuse toute organisation des travailleurs parce qu'il pense que la révolution ne doit être faite que par des révolutionnaires professionnels.
Tu vas te faire des copains ?
Ouais, bah, pas de soucis. Welcome. Et du coup, bah voilà. En France, il faudra d'ailleurs attendre 1915 que le statut légal entre dans le code du travail. Et donc, ce qu'on se rend compte à chaque fois, c'est que, bah, par exemple, en 1915, ça rentre dans le code du travail. Première guerre mondiale, pareil, gros problème de production, il y a des pénuries. L'État est un peu défaillant, il a du mal à fournir hein, tout ce dont il a besoin. Donc, on laisse les travailleurs s'organiser. Un deuxième essor en 1930-1936, pareil, je vais pas revenir dessus, grosse crise économique, c'est le Front populaire. Pareil à la Libération, 1945, les États sont un peu détruits, déstabilisés, plus de production ni rien. Énorme essor de ça, c'est toléré et laissé faire parce qu'il faut produire quelque chose. Et pareil, après, avec l'idéal un peu libertaire en post-68, quoi. Donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un peu de défaillance d'un pouvoir économique, il y a un peu un flou, eh ben, ces coopératives, elles apparaissent comme un outil qui permet de combler ces manques ou un processus, en tout cas, de réappropriation de sa vie à travers la sphère du travail. Ce qui peut se discuter complètement, hein, bien d'accord. Ouais, c'est une autre discussion aussi.
Grave questionnement, ce
genre. Grave questionnement, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est les SCOP ? Est-ce que c'est justement juste une autre forme d'organisation qui va finir par aliéner les travailleurs, mais sous une autre forme, mais qui permet aussi néanmoins de résister aux formes bah, les plus brutales de la domination des marchés, quoi ? Ou est-ce que c'est une organisation qui est, par essence, en disant les grands mots, révolutionnaire ? On voit bien qu'avec le temps, non, ce n'est pas obligatoirement, mais c'est reste quand même un outil intéressant. Et puis, pour en fait, finir en parlant de tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est de proposer plutôt un début de réflexion à travers deux exemples plutôt récents de reprise des usines. Pareil, hein, je ne suis pas sûr de défendre les usines, mais bon, en tout cas, reprise des usines par les travailleurs, une qui est assez récente et qui est plutôt locale, ce qu'on a appelé les ex-Fralib, hein, ça se passe juste à côté, c'était en Gémenos, en 2010, il y a le géant Unilever, qui est le propriétaire, qui décide de délocaliser en Pologne toute sa production d'infusion. Après 1336 jours de lutte, ce qui est donc aujourd'hui aussi la marque actuelle, donc en 2014, il y a un groupe de salariés qui parvient à reprendre cette entreprise en SCOP, ce qui s'appelle aujourd'hui donc, la SCOP T. Et je vais juste vous envoyer quelques phrases, qui sont des phrases très simples, mais que je trouve assez révélateur de ce que ça peut engendrer comme réflexion.
Non, c'est la 4.
Oui, je sais.
Avant, on avait des ordres venus d'en haut et on appliquait. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qu'on décide de notre organisation du travail, nos horaires, notre temps de travail, nos salaires. C'est clair que c'est un peu nouveau. Pour nous, on est une grande famille, comme je disais. Et dans la grande famille, il y a toujours des distensions, il y a toujours des gens qui s'entendent et qui ne s'entendent pas. Donc voilà, on est une grande famille, mais on gère collectivement avec la responsabilité de chacun.
Par exemple, avant, on était une personne pour trois machines et maintenant, on se retrouve à une personne pour une machine. Le fonctionnement est meilleur.
Par contre, les salaires, ils sont encore assez...
Oui, on a fait un effort sur les salaires pour démarrer l'entreprise et que ça aille à long terme, quoi.
Et ça, c'est un gros sacrifice pour vous ?
Un sacrifice, mais c'est pas... Je le retrouve dans mon confort de vie.
Ah ouais ? Voilà, non, non.
Quand je suis parti d'Unilever, Unilever me devait 5000 heures de travail non payées. Donc vous voyez ? Donc moi, je ne travaille pas pour l'argent. Mais il faut savoir que les grands groupes se servent bien les gens comme nous. C'est toute la chaîne qui a été repensée par rapport à l'objectif que l'on avait. Vous prenez la camomille. La camomille, j'ai uniquement sélectionné de la fleur de camomille, pas de la feuille de camomille. Plus vous prenez de la feuille, moins vous payez cher, mais la qualité est totalement différente. Et tous les gens que l'on rencontre ben, sont unanimes, hein, et on dépasse largement tous les autres.
Aujourd'hui, on arrive quand même à se produire en France, à s'approvisionner en France sur les plantes aromatiques et médicinales qu'on transforme en sachets, comme le tilleul, la verveine, la camomille. Et on espère que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de champs en culture pour nos besoins en volume. Et donc, ça fait travailler les agriculteurs français aussi de notre côté. Vous avez vu, on travaille avec la musique ici. Avant, c'était pas le cas. Voilà. Donc,
Alors, c'était donc les extraits de paroles qui sortent donc des hymnes de Fralib. Et un autre exemple sur lequel j'avais envie de revenir, pareil, une autre histoire, c'est ce qui se passe dans une petite PME du textile dans le Loiret, quoi, qui subit une grosse crise économique. Et donc, proposition de création de SCOP, ce qui était une véritable découverte pour toutes ces ouvrières qui travaillaient certaines depuis très très nombreuses années. Et donc, c'était remettre en question ce qui était pour elles les évidences clairement indépassables, travailler en collectif et devenir actrices elles-mêmes de leur propre destin par une liberté, une autonomie retrouvée. Et c'est d'ailleurs une histoire qu'on peut retrouver dans un documentaire qui s'appelle « Entre nos mains », qui a été réalisé par Marianne Otero en 2010. Et que je trouve assez intéressant. Alors, du coup, j'ai quelques extraits de phrases, mais alors, je crois qu'il y a un embrouille sur les montages, je ne vais peut-être pas repasser. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Donc, et ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est que c'est des gens qui n'étaient absolument pas qui n'avaient pas de pratique politique, même, voire de connaissances très fortes en politique ou mode d'organisation. Pour eux, c'est tout nouveau. Et qui, à chaque fois, dans les phrases très simples, expliquent qu'elles ont découvert une liberté, qu'elles deviennent maîtres de leur même emploi du temps, qu'elles travaillent peut-être, qu'elles touchent un petit peu moins, mais qu'en fait, elles ont un confort de vie qui est possible, et donc c'est de vivre sans accumulation de capital et pas pour quelqu'un, quoi. Donc des jolis moments, quoi, où c'est des pratiques qui amènent une conception de ce possible et pas l'inverse, pas la théorie, quoi. Voilà. C'était.
Eh ben merci. Écoute,
mais de rien, ce fut un plaisir. Vous voulez rebondir là-dessus ou...
Bah après, c'était assez clair. Pour moi, le retour historique et aussi la manière dont, enfin, ce que moi je retiens de ce qui est dit, c'est que de ce que tu as raconté, c'est surtout que ces moyens d'organisation ont toujours été un peu dénoncés par l'État parce que, enfin, par l'État. En tout cas, pas été une organisation que l'État a privilégiée, ou en tout cas où on a donné les moyens. Mais malgré tout, ce mode d'organisation a bien été utilisé par l'État quand il était nécessaire. Et lorsque la question de produire s'est posée envers et contre tout, on fait appel au bon sens. Et le bon sens serait qu'on s'organise.
Se collectivise.
Voilà, tout se collectivise. Mmh. Pour après reprendre le dessus et dire non, mais en fait, ça appartient à tel, tel, tel. L'idée, c'est de faire du profit et d'engager la propriété individuelle, quoi.
Tout à fait.
Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu.
C'était ça que dont je voulais parler. Petite musique.
Pierre,
allez.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind.
ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God.
Donc c'était Nina Simone, Ain't Got. Alors on voudrait reprendre le fil de notre discussion sur la propriété privée en abordant la question à travers l'emprise foncière, qui est quand même le principe inconditionnel de la colonisation. Et là, on a choisi de prendre comme exemple l'annexion des terres et la construction des États d'Amérique du Sud, et plus précisément avec, au travers de l'histoire du Chili. On a fait un entretien avec une camarade qui habite à Marseille, Pamela, qui est chilienne, et à qui on a demandé de revenir un peu sur l'histoire du Chili et des luttes qui ont eu cours suite à l'annexion des terres pendant ce qu'ils ont appelé la conquête. Alors, les conquêtes coloniales sont plutôt dirigées par les Européens et se sont surtout caractérisées par le massacre de millions de personnes, hein, d'une part, et puis d'autre part par l'appropriation de larges territoires habités par de nombreuses communautés. Et donc les colons se partagent les territoires, divisés en grands domaines privés, et y instaurent un système féodal, comme il en existait, comme on est revenu dessus, il en existait en Europe, et comme on est revenu dessus avec l'histoire des enclosures. Là, les grandes plantations émergent, les peuples annexés y sont exploités, et le trafic des esclaves africains et des marchandises s'organise. On peut donc un peu s'interroger, hein, face à ça, sur l'origine de la prospérité de l'Occident, n'est-ce pas ? Donc je vous invite à méditer là-dessus. C'est de l'ironie, mais en même temps, ça n'en est pas. Hein. Donc il n'y a pas vraiment eu de décolonisation en Amérique du Sud, et surtout que les structures coloniales perdurent dans les États nationaux. Donc même si les formes... de gouvernance ont changé, la forme des États a pu changer, oui, bien sûr, mais pas l'ordre social. Et ça aussi, on peut aussi se questionner sur les États coloniaux européens, à savoir la France, l'Angleterre, et puis bon, au-delà de l'Espagne, mais en tout cas, en France, par exemple, on peut aussi se questionner sur l'ordre social, hein, qui émane directement aussi de l'histoire coloniale. De l'histoire coloniale. Alors moi, je vous conseille juste une petite lecture d'une artiste écrivaine qui s'appelle Agnès... Oh putain, j'ai mal écrit son nom. Pardon, Agnès Stienne. Et bon, bref, c'est assez clair la manière dont elle parle de ça.
Okay.
Donc je vous propose de passer l'entretien qu'on a fait avec Pamela la semaine dernière.
C'est quoi le bouquin de Agnès Stienne ?
C'est pas un bouquin, c'est c'est une page internet.
Très bien.
Merci. Pamela.
Ok, on peut commencer. Yes. Alors, bonjour.
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 Et oui, alors, on a discuté déjà avant de ce dont on voulait parler. Et donc sur la question de la propriété privée, on s'était posé la question, surtout de comment ça s'était passé, notamment avec la colonisation d'Amérique du Sud, qui nous semble être l'exemple le plus contemporain et assez flagrant de l'appropriation par une partie de catégorie de gens au détriment d'une autre. Et là, en l'occurrence, avec l'histoire de la colonisation des Amériques, qu'on appelle Abya Yala, qui veut dire
et terre en pleine maturité. Ouais, voilà. On peut faire une traduction comme ça, mais quelque chose comme ça.
Et on a choisi de parler du Chili. Et toi, tu es originaire du Chili?
Ouais.
Voilà.
Donc, oui, je m'appelle Pamela. Je suis originaire du Chili, donc sans être du tout une experte sur ces questions-là, ça m'a permis, donc, ces questions posées, d'aller chercher un peu mieux, et notamment sur l'histoire de cette usurpation, c'est-à-dire plus contemporaine, parce qu'au-delà de processus de colonisation et de l'arrivée des Espagnols, etc., il y a aussi un processus de colonisation plus contemporaine et qui va de la main avec les indépendances des pays et la constitution des États-nations, dont l'Abya Yala, et qui vient remplacer, ou que ça sera bien, qui vient remplacer les mots Amérique. Donc,
ouais, on peut commencer par peut-être, comme en fait on n'est pas, nous non plus on n'est pas des experts, mais peut-être avec une petite histoire de la colonisation, en gros, et surtout, en fait, de se demander comment se sont construits les appropriations des terres colonisées dans la constitution des États qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, tous les processus de... Donc, évidemment, on a toute la période de la colonisation. Donc, nous, c'était principalement nous, je veux dire, moi en tant que Chilienne, ou que c'est ce qui apparaît dans ma carte d'identité. Et donc, toute cette partie du sud, donc les pays les plus au sud du monde, d'ailleurs, hein, le Chili, et tous ces pays qui ont constitué en soi comme État-nation, ses frontières étant dans le sud, bon, l'Antarctique. À l'est, l'Argentine, au nord, et la Bolivie et les Pérou, et à l'ouest, ben, le Pacifique. Donc c'est un tout fine, un pays très très fin qui fait 4500 km de longueur par un moyenne de 300 km de largeur. Donc c'est assez particulier comme géographie qui traverse depuis les déserts, hein, et qui arrive aux glaciers, hein, dans le sud. Donc c'est vraiment des géographies très particulières, une richesse aussi à niveau de ressources hydriques, très, très particulier. Donc pendant toute la période de la conquête, comme on l'appelle aussi beaucoup depuis l'Europe ou l'Espagne, donc on va dire des royaumes ont été établis. Donc il y avait le royaume aussi du Chili, La Plata du côté argentin, et il y en avait plusieurs différents peuples qui habitaient dans ces territoires, et plus au sud les Atacameños, bon, les Incas aussi qui étaient en lien aussi plus à niveau Pérou et tout ça, et à niveau du Chili il y avait les Atacameños, les Aymaras, bon, énormément de peuples qui ont été pratiquement éliminés, donc il y en a des très petites populations qui restent, et plus au sud les peuples mapuches, ce qui veut dire les peuples de la terre, et aussi de part et de l'Argentine actuelle, il y en avait aussi des mapuches. Pareil, l'Argentine, le processus d'indépendance était très très violent, et carrément une élimination, ils ont vraiment ravagé les peuples mapuches. Ben, en tout cas, et pendant donc la monarchie, il y a eu un point, donc les peuples mapuches étaient des peuples guerriers très forts, très puissants. Et même, par exemple, l'Empire Inca, et qui était un empire très fort, et n'a pas réussi, on va dire, à aller plus au sud, parce que les Mapuches ont défendu, en fait, tous ces territoires. Et les Espagnols, dans un certain point, ils ont dit aussi, eh bon, on va rester avec notre royaume, on va laisser, ils ont créé une frontière, une limite, et ils ont dit, au bout d'un moment, on laisse en fait cette terre, du coup, pour les Mapuche, et ils les ont, on va dire, identifiés en tant que royaume, mm-hmm. Royaume des Mapuche.
Et donc, lorsque les Espagnols sont arrivés, ils ont annexé les terres, il y a eu une guerre, et suite à cette guerre, le royaume, les Espagnols ont cédé une partie du territoire, ce qu'on appellera du Chili, quoi, aujourd'hui, une partie du territoire qui est au sud, au peuple Mapuche.
Exactement. Et du coup, pour avoir un peu une chiffre, donc, il s'agissait, par exemple, les peuples Mapuche, ils habitaient sur à peu près 30 millions d'hectares. Pendant les processus, on va dire, des monarchies monarchiques, royalistes, et ces zones, ils ont été d'à peu près 10 millions d'hectares. Ça réduit des 30 millions à 10 millions. Et il y a eu donc, on va dire qu'on peut, entre guillemets, appeler une période de paix jusqu'aux indépendances. L'indépendance du Chili, donc la création de la République chilienne, qui date de 1811, donc on avait un peu discuté, et très porté par une élite métisse, mais qui rejetait carrément ses origines mapuche, plus on va dire que c'était pur européen, mieux c'était à l'époque, en tout cas c'était des personnes qui étaient carrément éduquées sous une culture européenne ou européisante. Et c'était eux qui défendaient principalement quand même cette idée des républiques, d'État-nation du Chili. Donc quand ça a été créé, les deux choses les plus importantes qui ont été menées en fait depuis cette nouvelle État, c'était au nord, du coup, faire une guerre contre le Pérou et la Bolivie, les nouvelles indépendances de Pérou et la Bolivie, donc établir une limite, une frontière qu'ils ont augmentée, on va dire, de ce qui était la secteur chilien, et au sud, de faire une guerre et une occupation de terres sur toutes ces terres mapuche, donc ces 10 millions d'hectares de terres mapuche qui étaient des terres ancestrales, en fait, des communautés mapuche. Et donc plusieurs étapes ont eu lieu, donc ce processus, il a commencé à peu près en 1860, et on va dire vraiment de façon méthodologiquement, c'est vraiment commencé là. Donc, d'un côté, une militarisation, donc carrément amener donc, et une police, une organisation
une
occupation armée, et aussi l'installation des étrangers. Donc, notamment, il y en a eu des communautés allemandes qui se sont installées à Valdivia et dans d'autres villes. Et aussi des Chiliens, donc ils ont été installés, donc on leur aura donné des terres qui appartenaient en fait historiquement ou ancestralement à des communautés mapuche.
Ça veut dire que quand il y a eu l'installation de la République, il y a eu une division du territoire et une distribution des terres, de parcelles en fait, à la fois des Chiliens et des communautés étrangères, donc européennes plutôt, à qui on donnait ces terres-là, enfin, ils étaient propriétaires.
Exactement, donc du coup on a fait, on va dire, on a mis ça sous papier, donc on a bureaucratisé en fait et l'existence de ces terres, considérant que c'était des terres qui appartenaient à l'État du Chili. Ils ont quand même établi le fait que si certaines Mapuches pouvaient démontrer qu'ils habitaient là depuis plus de 5 ans, donc là aussi encore pareil avec des certaines formes de comment on peut démontrer et évaluer ça, et donc une subdivision de cette heure-là, et ensuite les donner soit à des étrangers ou à des Chiliens ou à certaines, et donc personne Mapuche, pas des communautés, que c'était leur forme d'organisation, mais en fait individualisée, et donc aussi et créer des sortes de privilèges et de différenciations entre la population Mapuche. Donc c'était déjà aussi une forme de déconstruction, ou on va dire on va dire, ils ont déjà commencé à menacer ou à déconstruire la société
telle qu'elle existait.
Telle qu'elle existait. Donc ça, c'était un processus qui s'est accentué jusqu'à et entre donc entre on va dire entre 1860 et 1926. Donc c'est 1 million d'hectares, ça pardon 10 millions d'hectares ont passé à 500 000 hectares et après ces 500 000 hectares aussi se sont réduits chaque fois plus parce qu'il y avait beaucoup de donc on va dire une marché de vente et des réappropriations par d'autres Chiliens et par des nouvelles arrivants, de nouveaux arrivants qui sont donc en fait les terres mapuches sont réduites de plus en plus.
Et du coup lorsque les mapuches ont encore quand même ce territoire, même si c'est réduit. Et le reste du territoire du Chili est organisé en république.
Voilà, donc les restes... Et après, bon, là, du coup, à partir de 1860, qu'est-ce qu'on appelle la pacification de la Araucanía, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. Et donc, à partir de là, on intègre donc tous ces terres qui ne faisait pas partie, en fait, qui avait été... Donc, une frontière, vraiment, avait été anciennement établie et n'existe plus. Et ces terres, ils sont intégrées à l'État-nation du Chili. Et donc, les peuples originaires et ces personnes qui vivaient vraiment dans une autre... sous d'autres formes et d'organisation et d'appliquer même leurs lois, etc. Mais ça ne pouvait plus exister, ça ne pouvait plus avoir lieu et il devait s'intégrer à cette nouvelle État-nation, nouveau État-nation chilien, du Chili.
Et lorsque, donc là, on est en 1860, les terres sont divisées et appartiennent à des propriétaires. C'est quoi le statut des gens qui vivent sur ces terres-là ? Ce sont des citoyens de la République ?
Ce sont des citoyens de la République chilienne. Et donc, ils doivent, donc comme d'habitude, en fait, donc ils doivent, parce que c'est ça la même, donc pour acquérir ces terres, déjà, donc ils doivent suivre des procédures bureaucratiques qui correspondent à la République, ça veut dire, et aller s'inscrire sur des bureaux, s'enregistrer les enfants. Et donc, il y a tout aussi une. Très, très complexe parce qu'il est, par exemple, le peuple mapuche, c'est en plus un peuple qui a une langue orale. Il n'y avait pas d'écriture. Et donc, ça, c'est encore. En plus, et on parlait une autre langue, on ne parlait pas l'espagnol. Donc. Tous ces processus de bureaucratisation absolument inconcevables, en fait, dans toute cette, toute cette période. Mais il y en a plusieurs formes, on va dire, de décolonisation aussi qui s'est fait a posteriori et qui passe, du coup, par ces sortes d'écritures. Et donc, à l'intérieur des communautés, il y a cette division. Donc, après, et pour que les communautés ils puissent quand même... exister, on va dire qu'on leur donne une personnalité juridique, il fallait aussi pareil qu'il y ait une restructuration selon les critères de la société civile chilienne, etc. Voilà.
Et tout à l'heure, on évoquait le fait que il y a eu quand même une petite révolution à l'arrivée d'Allende en 1973.
Oui, donc à cette forme de nouvelle organisation d'appropriation de terres, des nouvelles formes de cultifs, donc des nouvelles agricultures qui arrivent et avec les étrangères et avec les Chiliens, donc c'est ces nouvelles cultures qui commencent à s'installer, des villages qui commencent à se construire, etc. Et ben, ça continue sa route, sa consolidation, jusqu'en 1970 où Allende donc, fait plusieurs assemblées avec les conseils de terres hein, et les, on va dire, les formes d'organisation mapuche. Et donc plusieurs des zones, surtout de ces grands propriétaires, parce qu'il y avait des grands propriétaires terriens quand même, hein, des terres très grandes ont été données notamment à des étrangers. Et Salvador Allende a exproprié des terres pour leur redonner, donc ce qui s'appelait une restitution des terres à des communautés mapuche.
Donc plus à des individus, mais à des communautés.
À des communautés. Donc, et ça c'était. Et justement, très complexe après à défendre, puisque la première chose que Pinochet a fait, c'est de considérer cette loi qui avait été, parce que loi, une loi avait été carrément écrite par Allende pour faire cette restitution. Et cette dette, on va dire, faire un peu, parce que c'était pas assez, dans le sens, mais au moins symboliquement, ça représentait une restitution et la reconnaissance d'une dette historique. Mais c'est la première chose que Pinochet fait, c'est de prendre ces terres des Mapuches, les expulser des territoires avec la répression qu'on connaît très bien, la répression violente qui a eu lieu partout aussi au Chili, et les redonner à des entreprises étrangères. Et notamment là, c'était encore pire, et parce que c'était carrément des entreprises. Et parce que si, et avant, ces terres étaient tenues par des familles, là maintenant, elles passaient carrément à des mains des propriétés, des sociétés en fait extractivistes. Mmh. Donc, et des forestiers, énormément, des forestiers, des hydroélectriques et et des miniers, pas autant dans le sud de Chili qu'il y en a, mais plus vraiment l'exploitation, beaucoup, beaucoup, ce qui est forestier dans toute la cellulose. Il y a une grande partie de la production, même européenne et mondiale, qui est faite beaucoup en Amérique latine et au Chili.
Donc des terrains qui à la base étaient communs aux gens qui habitent sur le territoire et qui servaient à l'exploitation. Je veux dire, comment, justement, c'était la question que je voulais te poser, c'était par rapport aux formes d'exploitation des terres. Ce qui était commun aux Mapuche, enfin, les terres qui étaient communes aux Mapuche, c'était des terres sur lesquelles ils vivaient. Mais est-ce qu'ils les exploitaient, ces terres ?
Exactement, parce que c'était... c'est les Mapuche, donc ils avaient, on va dire, leur maison, qui c'est des maisons familiales partagées, et énormément de zones, parce qu'ils font beaucoup la cueillette, donc ils cueillent, c'est des peuples qui ne faisaient pas nécessairement beaucoup d'agriculture, mais beaucoup, beaucoup de cueillette, donc on cueille, dans le sud du Chili, on cueille beaucoup de champignons, des champignons délicieux, des sortes de différents types de champignons, le fruit du pin, de l'araucaria, qui c'est un arbre autochtone, originaire de ces saisons-là, qui fait un fruit, et quelques animaux. Mais donc, en fait, c'était des terres qui étaient partagées, qu'on venait cueillir ensemble, mais qui n'appartenaient à personne, en fait, et qui n'étaient pas, justement, ils n'avaient pas productivisé, selon on connaît, ou selon ces nouvelles pratiques qui arrivaient dans les 19e siècle, qui arrivaient au Chili. Ça, ce n'était pas leur façon de faire. Donc, c'était aussi beaucoup de terres partagées rituelles. Et aussi, parce qu'il y a certaines zones, par exemple, qui étaient très importantes pour les Mapuches, parce que c'était toutes des zones très spécifiques de plantes médicinales. Donc, aussi, il y a des zones, par exemple, qui servent comme filtre, en fait, pour protéger des plagues, pour protéger, donc, en fait, qui surtout fallait pas toucher, parce que c'était grâce au fait, en fait, qu'il faisait barrière contre d'autres choses, qu'il fallait surtout pas faire de l'agriculture, ni de l'exploitation sur ces terres-là. Donc vraiment une relation en tout cas avec la nature qui était beaucoup plus de recevoir ce que la terre avait à nous donner, qui est de venir nous en fait lui imposer des formes de cultif, même s'il y avait certaines formes de cultif, par exemple la patate, ça, il y a certaines choses qui étaient en plus originaires quand même de la Sud et qui avaient à voir avec des liens avec d'autres cultures américaines, mais voilà, c'était plus ce qui était considéré donc évidemment comme quelque chose d'inconcevable pour ces nouveaux arrivants qui étaient très, très intéressés justement à l'exploitation agricole. Et bon, et après, comme on le verra après avec les forestiers. Donc voilà, donc le processus de la dictature en fait vient mettre un coup, on va dire, très douloureux à tous les processus qui avaient été quand même constitués avec Salvador Allende et vient empirer et la situation. Bon, après, évidemment, avec la répression, la torture, la disparition d'énormément de personnes, des communautés, donc ça, ils sont beaucoup acharnés, notamment des gens qui avaient été dans les processus de restitution de ces terres. Et ensuite, les démocraties qui vont ne vont pas du tout restituer, on va dire, venir faire un pas en arrière de ce qui avait été consolidé par Pinochet, sino qu'au contraire.
Les démocraties, c'est
la démocratie, non, la transition démocratique qui arrive en 1989. Et avec Elwin, donc la première présidente, donc un démocrate chrétien. Et donc un ensemble de partis de centre-gauche qui prend le pouvoir, mais qui en fait n'échange pas du tout ni la constitution qui avait été écrite par la dictature, ni tous ces dons en fait qui avaient été faits à toutes ces entreprises. Donc, en fait, l'arrivée de la démocratie au Chili a été la légitimation, en fait, de ces vols, parce que c'est carrément un vol institutionnel. Ça veut dire que c'est des terres qui ont été acquises par des entreprises de façon irrégulière, parce que c'était un état imposé par une structure militaire. Et qui était après donc validé et légitimé par une démocratie qui n'a rien fait pour changer cette situation. Au contraire, ils ont subventionné ces entreprises forestières. Certaines entreprises qui reçoivent même jusqu'à aujourd'hui des aides jusqu'à 60% en fait de leurs investissements, en fait ils sont subventionnés par l'État. Donc leurs traités a très très bien marché et donc par contre ils ont créé des institutions donc comme la Corporation nationale de développement indigène parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, et donc plusieurs institutions qui venaient dire que oui on ça nous intéressait comme État-nation chilien, d'incorporer et intégrer les peuples mapuche. Donc, par exemple, protéger la langue, on va dire, et faire en sorte d'avoir une certaine reconnaissance de cette culture, sans parler, évidemment, de restitution de terres, et notamment des chiffres de qu'il y en a énormes. Et donc, faire un peu tampon, on va dire, de ça.
Tout à l'heure, tu avais utilisé un mot qui était l'intégration.
Ouais.
Et du coup, c'est comme si, à un moment donné, une manière de faire la main basse sur, en fait, ce que réclament les peuples mapuchés, à savoir la restitution de leur terre, pour faire la main basse là-dessus, ils vont donner du crédit au folklore qu'est la culture mapuche pour dire ah mais vous êtes une forme de reconnaissance passe par là, mais il n'y a que ça, alors que les mapuches eux réclament la restitution de leur terre.
Exactement, et c'est ce qui est plus dérangeant, c'est qu'on sépare donc ce folklore de toute forme de lutte qui a lieu actuellement, en fait, pour vraiment récupérer et restituer ce qu'il leur faut pour vivre, pour que cette folklore dont on fait tellement on fait tellement la pub, parce que c'est vraiment un outil publicitaire aujourd'hui, on peut le voir justement dans les grandes lignes même aujourd'hui, il y en a incorporé beaucoup dans les. Et parce que le Chili, c'est un pays extractiviste et exportateur, en fait, principalement. Donc, dans l'image des exportations chiliennes, l'image des Mapuches va venir ressurgir dans toute sa force. Et donc, comme ça, on prend ce qu'on aime dans toute la partie folklorique et on la vide complètement de demandes de peuples originaires, en sachant qu'aujourd'hui... ces personnes qui demandent en fait une restitution de terres sont criminalisées et sont emprisonnées, tuées. Et donc la situation toutes les revendications des peuples originaires ne sont absolument pas considérées dans cette image folklorique.
Et du coup, on se demandait aussi comment en fait comment les gens s'organisent pour se défendre, pour défendre leur autonomie face à cet État.
Donc actuellement, bon, donc les peuples mapuches sont beaucoup organisés autour de communautés. Donc c'est des communautés familiales, donc c'est vraiment la structure familiale qui est au centre de leur de l'organisation de la société, et en fait il s'est constitué après un intersociété, un intercommunauté. Donc il y en a plusieurs, on va dire, étapes de regroupement, et en fonction aussi des périodes. Et aujourd'hui c'est principalement par l'occupation des terres. Et donc par exemple, on va venir dire bon, cette terre ancestrale, et en ayant aussi une mémoire aussi, parce que c'est la mémoire orale, dit, ou la carte mentale aussi, qui vient beaucoup valoriser. Dire, il y a les souvenirs des ancêtres qui disaient on venait ici, par exemple, faire ces choses-là. Aujourd'hui, tout est devenu des champs de pins ou des plantations de pins, etc. Donc on va venir, on va brûler les pins et on va revenir agir ou mettre des maisons de ruka, comme on appelle, ou en tout cas réutiliser ces terres et les utiliser et venir y habiter. Donc on peut venir aussi faire des occupations à niveau, par exemple, de la mairie pour faire des réclamations, notamment vis-à-vis de prisonniers politiques mapuche. Et donc voilà, les brûlages des terres et les occupations, c'est les deux formes vraiment de lutte les plus importantes actuellement. Et en réponse à ça, donc aujourd'hui, une militarisation très forte des territoires, une répression et l'application de la loi de sécurité de l'État qui date de la dictature et qui, pour de délits qu'on dirait communs, dont les peines ne sont même pas des prisons fermes, aujourd'hui peuvent par exemple appliquer de 5 ou 10 ans de prison ferme grâce à cette loi de sécurité, qui c'est la même loi qui est en train d'être appliquée aussi par les personnes qui se sont révoltées depuis le 18 octobre de l'année dernière, 2019. Donc la lutte actuellement, la lutte dans le sud du Chili, elle est très acharnée. C'est des communautés qui sont très menacées. On vient utiliser la force dans les maisons des personnes, dans les écoles. Il y a aussi une répression très forte à niveau des jeunes, de la jeunesse, des enfants. Et évidemment, comme ce sont des communautés, comme je disais, comme leur forme d'organisation et des luttes aussi très reliées à la communauté familiale, c'est ce qu'on va venir attaquer en premier lieu aussi.
Et tu avais parlé aussi d'une autre forme de lutte qui était que moi je trouvais intéressante, c'était celle de refuser les subventions ou refuser de participer au principe de constitution qu'impose l'État pour pouvoir intégrer les populations mapuchées dans l'État-nation, justement.
Donc il y a évidemment, comme cette histoire aussi de quelle légitimité des terres, qui c'est qui nous donne la légitimité ou pas d'utiliser ces terres. Donc c'est exactement pareil, ça veut dire il y en a qui défendent le fait qu'il ne faut rien accepter de l'État chilien, ni des subventions, ni évidemment toutes les aides et apportées par ces institutions neutralisantes, en fait neutralisatrices, mais qui vient en fait juste essayer d'intégrer les Mapuches à une nation dont les Mapuches ne veulent pas participer. Ça veut dire, si on le pense profondément et historiquement, le Chili, c'est l'ennemi des peuples Mapuches. Donc je ne vois pas comment on pourrait en fait faire le pas de venir, on va dire, négocier ou collaborer avec cette forme de violence, de répression constante, cette menace constante, en plus en sachant les liens qui existent, parce que bon, il y a aussi, on n'en a pas autant parlé, mais en fait toute l'extraction, donc la manque d'eau en fait dont les peuples souffrent, parce que on peut avoir donné à une communauté, on peut lui avoir donné une terre, par exemple, mais si on retrouve une mine, un gisement en dessous, l'entreprise minière, elle peut venir exploiter, en fait. Parce que la loi, en fait, la loi de la terre, elle est en dessous de la loi minière au Chili. Pareil avec les ressources hydriques. Donc, tant que l'État chilien est, parce que l'État chilien aussi, pareil, il fait qu'il protège ses intérêts des entreprises, mais c'est qu'il y a une menace, en fait, à leur existence, carrément. Et donc, même la participation à l'intérieur de cette nouvelle constitution qui est en train d'être... normalement, les processus, ils commencent en avril. Donc là, maintenant, c'est toute une période d'élection. Donc, il y a toute une discussion autour de... Est-ce que... Donc, oui, il y a une sollicitation d'une participation dans des peuples originaires à l'intérieur de l'écriture de cette constitution. Mais en fait, on peut aussi se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces peuples originaires, qui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une autonomie complète, en fait, une existence parallèle de cet État. Donc, en fait, les mots intégration vient ici vraiment mettre le relief sur ce fait qu'on ne veut pas être assimilé. Ce qu'on voudrait, c'est en fait juste une autonomie complète, une existence différente. Donc, cette idée, même quand on parle de multiculturalité, de l'État chilien, etc., je pense qu'on pourrait vraiment venir questionner justement ces notions qui sont aujourd'hui très... font la paix, en fait, justement. Viens faire l'accord, hein, sur cette chose, sur toutes ces choses qui nous dérangent.
Mmh. Mmh. La paix sans compromis, quoi. Ouais. Ça, c'est une vraie question. Toi, tu fais partie du collectif qui va accueillir les femmes zapatistes. Qui vont certainement, probablement, enfin si elles peuvent, venir en Europe ces prochains mois. Est-ce que tu peux nous parler de leur venue et comment c'est organisé, surtout leur venue?
Ouais.
Elles sont nombreuses, non?
Donc en avril, il y a eu un appel, une déclaration, une délégation, donc à 75% de femmes zapatistes et aussi à... d'autres femmes appartenant au Conseil des Nations Indigènes de Mexique et qui viendraient donc en Europe et pour rencontrer des luttes, mais aussi pour rendre visibles leurs luttes qui sont complètement en lien du coup, avec tout ce qu'on vient de parler maintenant. L'idée, donc normalement, à l'origine, c'est qu'ils viennent fin juin, début juillet. Après, bon, on sait très bien qu'avec la situation actuelle, c'est très compliqué, mais ça a fait que bon, beaucoup des collectifs en France et en Europe étaient absolument motivés pour participer de cet accueil. Et donc, à Marseille et dans la région, il y a eu un collectif des collectifs qui a été monté, et des individus, etc., qui étaient motivés pour faire ça. Donc... effectivement, on est en train de... On veut d'abord rendre visibles ces luttes des zapatistes, leur forme d'organisation. Donc, on est en train d'organiser des projections, des événements autour de ça, déjà pour informer pour les gens, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et ça, aussi pour médiatiser leur lutte, et leur, parce qu'ils sont très menacés aussi. Elles sont très menacées. Et donc, l'idée, ce serait qu'il ferait une tournée dans l'Europe, soit la délégation complète, c'est 160 personnes qui viennent et qui seraient peut-être subdivisées. Il y a des activités transfrontalières qui sont en train de s'organiser. Bon, c'est une belle opportunité, en tout cas déjà, ça fait rencontrer des personnes... et de créer un réseau d'accueil qui est vachement intéressant. Aujourd'hui, l'accueil, peut-être c'est un grand mot en tout cas, mais c'est déjà intéressant de se positionner là et aussi d'inverser un peu ce mouvement toujours qui va plutôt de l'Europe, cette sorte. Hein. Donc, essayer d'inverser ça. Donc, une activité aussi intéressante qui vient aussi marquer, et on va dire d'où il avait sorti Colomb. Donc, de port de Huesca, si je ne me trompe pas. Donc, il y aurait une sorte aussi de caravane maritime qui viendrait faire un contre-coup d'arrivage des bateaux. Et dans la Méditerranée, exactement. Et dans la Méditerranée, Marseille, qui vient faire un peu stratégique aussi comme lieu des départs d'une caravane maritime. Donc, bon, ça se tisse. Ça se tisse et on verra si elles viennent là, si elles viennent dans une autre période. Mais en tout cas, ça nous mobilise autour de ces luttes, de parler de ces luttes-là, de partager surtout aussi leur forme d'organisation et tous ces apprentissages. Je pense qu'il y en a beaucoup de choses à apprendre et à peut-être désapprendre. Nous, en tout cas, depuis je pense, l'Amérique latine, on a beaucoup à désapprendre Et je pense que les apatistes nous ont fait un bon bout de chemin là-dedans. Mm-hmm. Donc voilà, c'est intéressant.
Et pour avoir les informations, parce que du coup, il y a un endroit où on peut écrire.
Ouais, donc on peut contacter, écrire en mail PACAZ, donc P-A-C-A-Z, @riseup.net. Donc riseup, c'est R-I-S-E-U-P.net. Donc PACAZ, @riseup.net. Comme ça, si les personnes veulent recevoir des informations, on peut intégrer la mailing list. Et voilà,
recevoir et participer aux différents événements et aussi aux réunions d'organisation.
Exactement. Donc ça, si ils peuvent nous écrire là et demander ou savoir s'ils veulent recevoir plus d'informations sur les événements ou sur l'organisation. Oui, intégrer des commissions. Il y a énormément de commissions. C'est une grande organisation.
Et notamment celle, à mon avis, celle du logement dont on parlait et de l'accueil des réunions, l'accueil des assemblées. À laquelle elles vont participer.
Exactement, donc il y aura vraiment à Marseille de l'idée aussi, bon, il y en a vraiment plusieurs événements intéressants qui se passent et à niveau local plus depuis Marseille et même dans les quartiers, par exemple une réception que nous on voudrait organiser depuis la Belle des Mets avec les luttes qui sont en place aussi dans les quartiers de la Belle des Mets, les CHO3, les collectifs d'habitants organisés. Mais au-delà de ça aussi, peut-être la possibilité d'organiser un sorte de forum des différents collectifs de la région. Et donc, pour se rencontrer, pour parler de nos luttes, ben, en tout cas, il y en a beaucoup de belles choses. Et bon, effectivement, il y a l'histoire de logement, d'héberger, parce qu'il y a les apatistes, mais il y a aussi tous les gens qui viennent autour. Donc peut-être aussi qui suivront cette aventure et cette caravane. Et par les différents endroits, il y aura des activités. Donc, ça a l'air d'être une belle aventure, en tout cas, à suivre.
Eh bien, merci Pamela.
Et merci à toi.
Eh bien, merci à Pamela. Là, je vois que l'heure est en train de tourner. Ben, l'émission va toucher à sa fin. Je voulais vous rappeler que vous pouvez écouter les émissions précédentes sur irsis.at/émission-histoire, HEARTHIS.AT, /émission-histoire au singulier. Voilà, bah merci d'avoir suivi l'émission et puis on se retrouve le mois prochain, le 7 avril, pour un nouvel épisode de l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. Ciao!
Merci, ciao, ciao!
تحويش الغابة ورباد الخشيب يعلموا البرجادية تحويش الغابة ورباد الخشيب يعلموا البرجادية يراهم ناس عمدوا للرحلة صبحوا على الزرب يقدوا فيه بين مشتى وخريف شمها خضر خبت عليه يا منى يا منى ايه 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 ايه